Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeon. Et je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore une fois pour des news dans la partie business, entreprise, pro du jeu vidéo. Comme je le répète un peu à chaque épisode de ce podcast, maintenant on ne traite pas ici des sorties de jeux ou des reviews, des tests de jeux vidéo, mais plutôt de l'aspect un peu plus les coulisses d'un développement de jeux vidéo, tout ce qui se passe un peu dans la partie business, professionnelle, les ouvertures de studio, les moteurs de jeu, les nouvelles technos, etc. Donc c'est vraiment différent des autres podcasts que vous pouvez retrouver. Et puis n'hésitez pas non plus à aller noter ce podcast sur vos plateformes de podcast préférées, là où vous nous écoutez partout, hein, donc Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, partout où vous pouvez nous mettre 5 étoiles, mettez 5 étoiles pour améliorer la visibilité de ce podcast, ça nous aide énormément, mais bien qu'on ait un Patreon qui, comme je le dis à chaque fois, n'est pas forcément là pour vous donner quelque soit un avantage particulier, c'est vraiment un Patreon pour soutenir le podcast, pour ce que je fais. Et il y a pas d'avantage en particulier, vous avez tout le monde a accès à ce podcast globalement, donc vous pouvez toujours aller vous faire un tour sur patreon.com/lcdj si vous voulez soutenir le podcast et la création de ce podcast et le faire connaître aussi autour de vous, ça nous aide toujours. Donc sans tarder, on va attaquer la partie news. Donc on a une bonne habitude là depuis depuis le début de l'année presque, des news de fermeture, de restructuration, de licenciement, etc. Donc on commence par une news du côté d'Embracer qui ferme son studio comme Fire Cabal, qui est qui a été établi à peu près plus d'un an maintenant et dont Embracer, hein, qui est un gros groupe qui a quand même pas mal de studios comme je crois THQ Nordic si je dis pas de bêtises, donc peut-être que j'ai une bêtise, il faut que je revoie parce qu'ils ont tellement de studios Embracer que je vais peut-être pas il faut peut-être que je revérifie ça, mais en tout cas Campfire Cabal est un studio qui a été créé il y a pas si longtemps que ça, donc à un peu près un an. Le seul point positif que je vois, c'est qu'ils ne veulent pas forcément licencier les gens, ils veulent juste fermer le studio et replacer les personnels dans d'autres studios du groupe, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il faut voir un peu la suite, comment les choses vont se dérouler, parce que Embracer a dit qu'ils avaient plus de 17 000 personnes depuis ces quelques dernières années où ils ont continué à racheter des studios, à monter de nouveaux studios, etc. Ils ont vraiment beaucoup grossi, ils ont plus que 17 000 personnes dans le groupe. Donc là, ils veulent, restructurer, réorganiser les différents studios, leur process de développement, leur projet, etc. Donc il y a ce studio qui ferme, on espère pour eux qu'ils vont retrouver rapidement du travail et être placés quelque part qui correspondra à leurs compétences. Petite news suivante, un peu plus dans les chiffres cette fois-ci, on va parler d'Unity je pense que chaque année c'est un peu la même chose, mais pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous savez que c'est un peu la période pour certains studios de faire un peu le jeu de l'exercice fiscal qui vient de passer, donc de faire un petit bilan, de dire qu'est-ce qu'ils ont, comment ça a fonctionné, est-ce qu'ils ont fait des résultats, etc. Donc de un peu rendre des comptes aux investisseurs de publier ouvertement les chiffres pour ceux qui sont obligés de le faire, notamment Unity, c'est le cas. Et donc, pour le deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2023-2024, Unity a montré un peu les chiffres et a montré quand même qu'ils ont continué à faire une croissance par rapport... ils ont raté les objectifs qui étaient visés, mais Unity continue quand même à enregistrer une croissance continue de l'entreprise au cours du dernier trimestre, et notamment avec les deux sections, une section gros et une section Create Studios. Donc la section Create Studios, c'est plus orienté sur le développement de jeux, donc c'est notamment le moteur de jeu principalement et les licences qui sont rattachées à ce moteur de jeu Unity, parce que même si le moteur de jeu Unity est gratuit en tant qu'indépendant ou si vous faites moins de 100 000 dollars je crois de revenus, mais à partir de 100 000 dollars vous devez prendre une licence, même la licence Unity Plus qui est dans les 35-40 dollars par mois par personne, et au-dessus de 200 000 dollars je crois vous êtes obligé de prendre une solution pro, Unity Pro, qui est presque à 2000 dollars par mois, si je ne dis pas de bêtises, ou 1500 par personne. Donc Ça paraît beaucoup, mais à l'échelle d'Unity, ce n'est pas si énorme que ça finalement, parce qu'ils ont du mal à ce que, vu que plein de petits projets utilisent Unity et n'ont pas forcément, ne reportent pas forcément énormément d'argent, c'est vraiment les gros projets avec du succès qui rapportent le plus pour Unity. Et je veux dire, malheureusement, il y a beaucoup de projets hein, qui fonctionnent mal, notamment les jeux mobiles, etc. Ça cartonne. Et les studios qui l'utilisent, notamment, je pense que ça rapporte pas mal de sous, mais ça reste des petites équipes. Là où les gros AAA ont souvent leur moteur maison ou utilisent Unreal Engine, qui a une autre façon de pricer le moteur, donc qui est pas en plus. Qui sont pas forcément attirés par le moteur Unity, et donc du coup c'est quand même quelque chose un peu dur à Unity pour Unity de percer, d'aller sur ce terrain des jeux un peu plus triple A, un peu plus voilà, un peu plus qualitatif visuellement on va dire. Et bon, je prends un peu des pincettes parce qu'on peut aussi faire des choses qualitatives visuellement avec sur Unity, hein, ce qui est possible de faire sur Unreal, on peut le faire aussi sur Unity. Ça demande un peu plus de temps de travail peut-être et des choses un peu moins out of the box. Ou peut-être aussi simple qu'un Unreal Engine, mais c'est quand même intéressant de voir que Unity essaye de simplifier ces démarches-là afin d'attirer un maximum de développeurs aussi sur ce créneau des jeux un peu haute résolution, avec notamment les rendus HDRP, voilà. Ils ont essayé vraiment de développer ce côté un peu Create Studios. Ils ont du mal à faire progresser, mais ce que le côté un peu moteur de jeu pour attirer plus de gens et avoir des licences payante dessus, alors que la division Grow, qui est plus axée solution pour les développeurs, c'est là qu'ils ont fait fort ces derniers temps. Donc le Create Studio, juste pour les revenus générés, c'est à 193 millions de dollars, alors que le Grow Solution a passé à 340 millions de dollars. Donc c'est à peu près 157% d'augmentation par rapport à l'année dernière, je crois. Et l'idée, c'est que le Grow, c'est plus l'aspect service, tout ce qu'offrent les services de Unity, notamment le multiplayer, les solutions de cloud build, les solutions de tracking, les solutions de quoi d'autre de Git, hein. Enfin, ils ont l'équivalent de Git, je crois que ils ont racheté Perforce, non pas Perforce, Plastic, je crois, Plastic SCM, je vais parler, et qui a une solution de versioning maintenant qui appartient à Unity, donc ça aussi, il y a un pricing dessus, du Cloud Content Delivery, donc c'est du CDN d'Unity, enfin, il y a pas mal de services qui sont intégrés dans Unity, et ils avaient racheté Delta DNA aussi. Et donc ça pour le tracking, et c'est beaucoup de jeux mobiles finalement qui utilisent déjà Unity, qui permettent de s'appuyer sur ces solutions du moteur de jeu avec toutes les solutions qui existent dans Unity pour que les intégrations soient faites de façon assez facile, hein, parce que Unity, tous ces services évidemment, il y a des SDK, etc., qui sont facilement accessibles si on utilise Unity. Du coup, ça augmente les revenus de cette section un peu gros. Et bien sûr, j'ai oublié la partie ads, hein, quand ils ont racheté Iron Source, ils ont aussi cette partie ads qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent à Unity, parce que beaucoup d'annonceurs sur mobile passent par Unity pour publier des pubs. C'est devenu un gros concurrent à Facebook et à d'autres ad networks comme Google, voilà, etc. Donc voilà, ça continue à progresser. Ils ont baissé, bon, il y a les pertes sont en baisse, donc ils continuent à perdre un peu d'argent, mais ils arrivent à perdre moins d'argent qu'avant. Donc, j'ai pas vraiment les chiffres exacts ici, mais ce qui est dit, c'est que ils ont une bonne perspective pour l'année à venir. Donc, ils veulent essayer de toujours revenir à l'équilibre. Bien sûr, c'est toujours le cas, l'objectif qui est prévu pour Unity pour cette année, les années à venir, et donc avec un bon développement. Puis on n'oublie pas tous les nouveaux produits, les nouveautés qui ont été annoncées par exemple, la prise en charge des nouvelles technologies comme le casque Vision Pro d'Apple, qui sera Unity va pouvoir faire des builds pour le casque. Voilà, si vous voulez faire déjà de la R&D pour le casque, vous pouvez le faire avec la dernière version d'Extreme de Unity qui prend en charge. Donc voilà, il y avait pas mal de choses qui bougent. Et donc à jeter, si vous voulez, c'est intéressant, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Et puis en même temps, j'ai vu qu'il y a aussi tous les jeux qui ont été faits avec Unity en 2023, où il y a un petit blog là, qui est apparu sur le site de Unity. Vous pouvez voir par exemple pas mal de jeux. Et donc, par exemple, Dave the Diver, qui a été élu l'un des nouveaux jeux Steam, dans le top 20 des nouveaux jeux Steam, qui a été release en juin, donc qui a été fait avec Unity. Donc, c'est quand même des bonnes performances pour Unity, pour ce moteur. Il y a aussi Slime Rancher 2, évidemment le gros succès de Marvel Snap. Il y a une petite vidéo qui explique un peu comment ils ont comme ils ont les coulisses du développement du Marvel Snap avec l'équipe. Marvel Snap qui est un jeu de cartes un peu à l'instar d'un Hearthstone, mais encore plus simplifié avec des jeux avec un temps de jeu de 5-6 minutes, donc hyper court, qui cartonne. Donc voilà, allez jeter un œil. Je mettrai évidemment tous ces articles en note de l'émission, si vous voulez les voir, et regardez par vous-même tout ce qui est toujours possible de faire avec le moteur de jeu Unity, et vous donner peut-être envie de vous mettre si vous hésitez encore entre plusieurs moteurs. News suivante, c'est le studio de développement Fireplace Games, qui est un studio français, si je ne me trompe pas, et qui sort son jeu qui s'appelle En Garde, qui est un de leurs premiers jeux. Donc, en gros, En Garde, c'est un jeu d'action, d'escrime développé par Fireplace Games, hein, le studio 2, en fait, ça a été présenté au Steam Next Festival de cet été, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un studio qui a été cofondé par 8 personnes après la fin de leurs études. Et en gros, ça a attiré les éditeurs, les investisseurs, etc. Anaïs Simonet, qui est la PDG de Fireplace Games, elle est assez active, je crois, sur Twitter, hein, vous pouvez la suivre. C'est assez intéressant en plus ce qu'elle tweet, etc. Vous pouvez voir ça sur. Elle parle un peu aussi de développement de jeux, etc. Et donc en gros, ce qu'elle raconte dans ce blog, c'est que pour un premier jeu, c'est quand même un gros jeu, et qu'ils ont voulu aller directement faire quelque chose qui leur faisait plaisir. Et ils ont pas essayé de faire de. Comment dire ça, d'essayer de faire quelque chose de facile pour le début et tout, en disant, allez, on va faire un jeu peut-être plus à notre portée pour pouvoir lancer le jeu, après faire le jeu de nos rêves plus tard, etc. Donc après, voilà, ils ont quand même fait des petits jobs à côté, ils ont fait du freelance, ils ont bossé dans des studios, etc. pendant quelques années, mais ils ont su garder cette équipe pour pouvoir de se concentrer vraiment sur le jeu qui leur plaisait avec un jeu, là, en garde, c'est un jeu d'action-combat, hein, donc c'est quelque chose d'assez dur quand même à faire. En tant que premier jeu. Mais ils voulaient vraiment faire ce jeu avec un peu de panache, avec quelque chose qui tenait vraiment à cœur, et s'amuser à développer leur jeu, et même quand c'est difficile. Et donc, beau challenge et belle réussite, hein, de cette équipe, hein, Fireplace Game. Donc, allez voir En Garde. Si vous ne l'avez pas déjà, je ne sais pas si c'est possible de wishlister ou pas, mais c'est intéressant d'aller soutenir les développeurs comme ça, français, qui se lancent et tout. Et vraiment, le style a l'air vraiment top. Voilà. Allez voir le Success Stories aussi. Je mettrai en note de l'émission, sur comment tout ça est arrivé, et que voilà, qu'ils ont essayé de. Elle dit, Anaïs, là-dedans, que voilà, ils auraient pu être plus prudents, mais ils étaient tellement impatients qu'ils voulaient faire le plus gros jeu tout de suite pour eux, et donc ça se comprend aussi. Passer à la news suivante. Alors, la news suivante, c'est toujours l'excellent Game Discover Co. Newsletter, qui est un newsletter dont je vous parle assez souvent, qui est un newsletter sur le développement de jeux vidéo. Et là, il nous parle un peu plus de. En fait, c'est comment. C'est une sorte de manuel pour être découvert pour de votre jeu sur Steam, et aussi sur console. En gros, comment gérer son plan marketing pour sortir son jeu et être visible sur le store de Steam. En gros, ce qu'il recommande, c'est annoncer le jeu 12 à 18 mois avant le lancement pour créer un peu d'excitation et obtenir un peu d'intérêt des joueurs. C'est vrai que de faire du Shadow Drop, ça peut marcher. Il y a des jeux qui ont tenté ça, de faire du Shadow Drop et de rien dire et de lancer le truc, et boum, ça cartonnait. Donc, notamment, je pense à Apex Legends, qui est arrivé un peu comme ça et qui a cartonné. Qui sortait un peu d'une part, enfin voilà, personne l'attendait vraiment. En plus, je crois que ça s'est fait en même temps qu'un Titanfall, non, c'était pas Titanfall, je sais plus, un autre jeu qui est complètement bidé, parce que c'était en plus Electronic Arts, les deux. Mais le côté Shadow Drop, des fois ça peut marcher, mais ils recommandent quand même d'annoncer le jeu au moins un an à l'avance, hein, voire un an et demi à l'avance, pour susciter un peu d'intérêt pour les joueurs. Il faut faire une petite bande-annonce de gameplay avec une version jouable, si possible, mettre vraiment l'accent sur les streamers, les vidéos de démonstration, pour atteindre vraiment une large audience. Donc, ne pas hésiter à contacter, faire la pub, faire la com, pendant que, 12 mois avant le lancement du jeu. Après, il faut que le jeu, l'importance du jeu et de l'accroche du jeu, c'est hyper critique. Faut avoir un jeu avec une grosse rejouabilité. C'est sûr que voilà, il y a certains jeux, une fois que c'est fini et qu'on peut plus rien faire, c'est un peu compliqué. Donc il faut toujours trouver un moyen de faire en sorte que les gens qui sont un peu accros puissent rejouer un peu à l'infini, quoi. Bon, on est un peu profond aussi dans la mécanique de jeu. Il faut pas que ce soit trop simple non plus. Même si c'est court, il faut arriver à ce que quelque chose, enfin des gens qui sont un peu plus hardcore puissent prendre plaisir à aller plus loin encore avec des mécaniques un peu plus poussées pour les gens qui ont envie de passer un peu plus d'heures sur votre jeu. Et voilà, il faut vraiment regarder les tendances aussi du marché, hein. Sur Steam, il y a pas mal d'éléments, pas mal d'outils qui permettent d'analyser quelles sont les tendances sur Steam, quels sont les tags qui marchent, quels sont les types de jeux qui marchent, et essayer de s'en inspirer aussi pour votre jeu. Et pour vraiment maximiser la découverte sur Steam, il faut faire plein de mises à jour régulièrement, de mettre à jour la page Steam, la page du jeu, les builds sur Steam, etc. De rendre vraiment le jeu vivant pour pas montrer que vous l'avez sorti et hop, il se passe plus rien, quoi, et que le dev s'en fiche complètement. Donc montrer qu'il y a un suivi, qu'il y a un intérêt des devs à maintenir le jeu dans la longueur. Voilà. Et puis si vous faites des événements un peu, voilà, des salons, quelque chose de physique aussi pour maintenir votre communauté à jour aussi, dire, même si les salons un peu localement vers chez vous, ou que soyez sûrement qu'il y a des salons d'indé, etc., qui sont pas très chers, ou même aller à Paris, des fois ça coûte c'est un petit budget, mais ça vaut le coup d'être présent physiquement sur les événements pour votre communauté, pour faire de la com, faire de la pub, parler de votre jeu, et ça drive des fois, ça a vraiment un impact sur les ventes et l'ajout dans les wishlists de votre jeu, quoi. Et la mise en avant dans les boutiques, dans la boutique en ligne, a un impact vraiment significatif sur les ventes, et pour ça, on l'a abordé dans le précédent podcast, hein, c'est vraiment une stratégie aussi de mise en vente qu'il faut, une stratégie pour pouvoir être mise en avant sur Steam, qu'il faut suivre aussi, on en a un peu parlé la dernière fois. Et n'hésitez pas à interagir avec la communauté, avoir un petit Discord ou quelque part, ou un forum même s'il faut. Bon, c'est plus Discord en ce moment, hein. Les gens sont plus trop habitués au forum, mais ouais, si vous avez un petit Discord pour interagir avec la communauté, recevoir des retours, améliorer votre jeu, et c'est vraiment crucial de montrer que vous êtes à l'écoute, et ça permettra aussi de rassurer les gens qui l'achètent peut-être en early access ou avant, pour dire voilà, le jeu n'est pas parfait, mais on sait que les devs sont à l'écoute, font des updates, et ça peut les rassurer pour passer à l'achat ou même ajouter votre jeu dans la wishlist, quoi, sur Steam. Donc il y a pas mal de bonnes pratiques, je mettrai le lien pour avoir le détail de comment bien lancer votre jeu sur Steam, et pour qu'il soit il y ait maximum de chances d'être découvert par les joueurs. Et donc n'oubliez pas l'info clé, c'est il faut l'anticiper au moins un an à l'avance, voire un an et demi à l'avance si vous prévoyez de lancer votre jeu par exemple en 2024. C'est maintenant qu'il faut faire les choses, sinon il va falloir attendre un peu, quoi. Voilà. Et bien non, c'est une bonne info, parce que pour moi aussi, hein, qui rend d'élèves notre jeu indépendant, peut-être qu'il faudrait que je commence déjà à faire la page Steam et de lancer un peu l'info que l'autre jeu devrait sortir l'année prochaine. Voilà, et sinon, petite Humble Bundle qui est sorti il y a quelques jours, qui est hyper intéressant. C'est un Humble Bundle solo indie qui est en gros regroupe pas mal de. C'est des cours, hein, donc c'est des cours pour apprendre à dev des jeux sur l'excellent site de gamedev.tv, qui est un super site, hein, si vous parlez anglais. Moi, j'ai suivi des tutos de Blender, j'ai jamais vu un tutoriel Blender aussi complet et aussi clair et aussi facile à appréhender. Je le recommande à fond. Donc, il est dans le bundle d'ailleurs, je crois. Il est à 22,10€ si vous voulez avoir 14 articles. Donc, allez-y, les yeux fermés. Et c'est vraiment un super bundle pour tous ceux qui veulent se lancer. Il y a même un cours complet sur Godot 4. Si vous voulez vous mettre à Godot 4 pour faire un jeu 2D, par exemple, ils ont un cours dessus aussi qui est dans le bundle. Il y a du Unreal Engine, du Unity. Il y a vraiment tous les types de moteurs, du Blender, du pixel art, des concept art, même aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, ça c'est pas fréquent dans les bundles, mais c'est comment finir des cours de motivation sur comment finir votre projet, comment créer des choses en tant qu'indé pour être efficace et tout. Il parle, ça va au-delà même de des outils ou du moteur, c'est aussi le mindset et des cours d'encouragement. Donc allez faire un tour sur Humble Bundle, je mettrai le lien en haut de l'émission si ça vous intéresse. Et pour terminer, une excellente vidéo de la GDC qui a été repostée sur le site gamedeveloper.com, qui est un une vieille vidéo de 2010, hein, qui est disponible gratuitement, qui parle de design. Donc en gros, c'est une personne d'Electronic Arts qui faisait cette conf, et maintenant qui est devenu lead designer chez Riot, qui nous explique déjà que les game design documents, personne ne les lit, donc quand ils sont trop longs, ça sert à rien, personne ne va forcément lire votre game design document, donc c'est vraiment un pro tips, hein, pour tous les game designers qui se mettent à écrire 200 pages de documents de game design. Il y a très peu de personnes qui vont le lire, donc après, si vous faites bosser sur des AAA avec des aspects très particuliers, oui, pourquoi pas documenter ces parties-là, mais l'idée, c'est ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est comment faire pour que ça tienne sur une page, dans le one-pager, pour que ce soit le plus compréhensible possible votre design, et d'en faire quelque chose de hyper visuel, hyper compréhensible, hyper impactant, et que tout le monde puisse l'avoir limite imprimé, affiché sur son bureau, dans son écran, quelque chose qui peuvent être partout, compréhensibles, jeter un coup d'œil et dire je sais exactement quel type de jeu je fabrique. Et donc il montre des exemples de sport sur lequel il a travaillé, ou le jeu Simpson aussi sur lequel il a travaillé. Donc c'est une vidéo assez intéressante si vous avez du mal des fois à ce que vos progs, vos équipes ne lisent jamais le game design, de doc de game design, ne soyez pas inquiets, c'est tout à fait normal, c'est courant. Moi au début ça me surprenait aussi, on passait du temps à écrire des super docs mais personne ne les lisait. À chaque fois, il fallait que je repasse derrière pour expliquer. Et en fait, à force d'expérience, je me suis dit, c'est tout à fait normal. Les devs n'ont pas forcément le temps de se plonger dans 200 pages de documents pour chercher l'info. Et les wikis, c'est bien, hein, les wikis, même sur Notion, etc. C'est intéressant. Mais rechercher l'information, ça prend tellement de temps. Il faut que des fois, le game designer explique les choses. Mais d'avoir un one-pager pour vraiment quelque chose de concis, de direct, pour dire je me pose une question, je sais ce qu'il faut faire chez les grandes lignes. Après les détails, évidemment j'irai les creuser là où ça m'intéresse, mais j'ai vraiment les grandes lignes de comment la fonctionnalité va marcher, je sais à quoi m'attendre et je sais vers où je vais, quoi, pour avoir vraiment la vision du game design document du jeu et de la vision du jeu sur ce one pager du game design document. Voilà, excellente vidéo à regarder, donc je vous mettrai ça comme le reste en note de l'émission si vous voulez aller jeter un coup d'œil. C'est tout pour cette semaine, on va s'arrêter là, je vous souhaite une excellente semaine, n'hésitez pas à nous retrouver sur, comme je disais, les plateformes de podcast préférées, et également sur YouTube, hein, youtube.com/@coulissesduju. Sur Twitter @coulissesduju, coulisses au pluriel. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!